18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est un plaisir d'être avec vous tous les soirs et on est vendredi, tranquillement, nous, sereinement, nous allons vous accompagner. Eh bien, c'est déjà la fin des vacances. Eh oui, la reprise va être compliquée certainement pour certains d'entre vous. Je vous souhaite bonne reprise. Pour ceux qui n'ont pas pu profiter de leurs vacances, eh bien, sachez que nous vous accompagnons, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, partout dans le monde, avec l'application Beurre FM, vous le savez. Allez, 01 53 48 3000, vous le savez, ça c'est votre numéro, mais tout de suite au menu de cette émission, votre émission d'ailleurs. Ce qui a retenu notre attention, on reviendra, vous savez, sur les déclarations de Gérard Darmanin avec l'immigration du travail, les déclarations, un an, et on va prendre le temps de décrypter, d'analyser, de regarder tout cela, mais d'ores et déjà, vous savez, qu'il se prend des critiques de tous bords, y compris de certains acteurs. Ensuite, on reviendra sur... On n'arrête pas de le dégainer, le 49-3, vous le savez, Elisabeth Borne, de toute façon, elle n'a pas le choix. Et puis l'émotion de censure de l'autre côté, on en parlera. Ça va être quand même une clochette, ça, si vous l'avez. Eh oui, l'Assemblée nationale, tout à l'heure, en direct, en live, ici même. Le pouvoir d'achat avec Bruno Le Maire qui dit, revenir sur les propos du chef de l'État Emmanuel Macron, l'indexation sur les salaires, pourquoi ? Non, non, ce sera non, et non, et encore non. Clochette. Il n'y a pas de clochette. Eh bien, on fera sans clochette. L'élection de ce week-end, vous savez, c'est aussi le scrutin attendu ou pas, mais en tout cas, deux personnalités, deux duels. Louis-Marie face à Jordan Bardella, le tout jeune, ambitieux. Eh bien, nous en parlons tout à l'heure, même si, vous le savez, on parle d'un favori, c'est Jordan Bardella. Covid-19, paraît-il qu'il faut qu'on remette les masques. Bon, en tout cas, recommandé de remettre les masques, parce qu'on rentre dans une saison où... on va se choper en pleine figure le Covid, la grippe, etc., etc. Et bien justement, nous allons en parler ici même, dans Les Informés, vous le savez, en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, c'est parti tout de suite, nous attaquons avec le face-à-face.
Les Informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, vous le savez, c'est avec Fawzi le retour, le louche. Comment ça va, mon cher Fawzi ?
Ça va, ça va.
Remontez légèrement votre micro, voilà.
Remontez un petit peu.
Voilà. Ah, bah oui. Super, on vous entend bien, la voix passe bien, elle tape dans les ondes, vous vous rendez compte. Comment ça va, mon cher Fawzi ?
Ça va très bien. Avec plaisir d'être là et puis pour les auditeurs de pouvoir échanger.
Mais voilà, c'est bien.
Échanger et puis interagir.
Exactement. À vos côtés, un élu de Rueil ma maison. Oui, ça
va. Bonsoir Adil.
Rafik Tebgari, tout va
toujours
bien.
Toujours un plaisir d'être là.
Ouais.
Surtout que les vacances sont terminées.
Élu, mais aussi également engagé à côté, évidemment, dans la finance.
Tout à fait.
Voilà.
Exactement.
Tout va bien. Comme Karim Alouache. On a un autre financier ici, c'est Karim Alouache, vous savez.
Excellent.
Vous le connaissez ?
Oui, mais je pense que il y a énormément de cadres qui interviennent dans votre émission.
De cadres ?
Non, je veux dire, dans la finance, en parlant.
Il y a de tout. On essaie de maintenir un équilibre.
Et c'est très très bien.
Moi, je pense que
c'est très représentatif de la société.
Bah, elle est là, regardez.
Et des auditeurs.
Regardez. Absolument. Jimmy Dalidou, bonjour.
Bonjour à tous.
Représentant CGT, mais également auteur.
Tout à fait.
Bon, écoutez, messieurs, tout de suite, nous allons démarrer, vous savez quoi, avec ce premier sujet qui a retenu notre attention. Vous savez, c'est cette déclaration. Être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, déclare Gérard Darmanin qui présente la future loi asile et l'immigration. Qu'est-ce qu'il faut comprendre entre méchant avec les méchants, gentil avec les gentils? Il fait des punchlines en ce moment, le ministre de l'Intérieur, il les enchaîne à notre décrypté, quoi. Fawzi Lelouch, parlons-en, parce que là, justement, c'est le lieu, on prend le temps nécessaire d'en parler. Cette histoire sur retour
alors,
sur la loi de l'immigration.
Ouais, dernièrement, déjà, on lui a reproché d'être très fort avec les faibles et très conciliant avec les forts.
Oui.
Concernant toutes les décisions, concernant toutes les décisions qu'il prenait et surtout la répression qu'il pouvait y avoir dans la contestation sociale, comme il a pu y avoir, par exemple, pour Sainte-Soline ce week-end ou d'autres fois dans la rue. Mmh. Donc suite aussi à
Le Pen a dit qu'il infantilise les Français.
De toute façon, tout ce gouvernement infantilise l'ensemble de la population française.
On ça, leur c'était dit... ce matin. Hein.
Oui, non, mais bon, c'est pas nouveau.
Ouais.
On a pu le voir pendant la période du Covid, on a pu le voir dans les décisions qu'ils ont prises depuis maintenant bientôt 6 ans. Il n'y a rien qu'à changer. On nous dit comment faire, quoi faire, on nous dit ce qui n'est pas bien de faire. Et les médias mainstream reproduisent constamment... la parole par des éditoriaux, par des gens qui sont invités, par des politiques, la bonne conscience de penser, la bonne conscience d'agir dans cette société.
Je vous reconnais, mon cher Fawzi Lelouch, je vous vois arriver.
Je suis pas surpris, vous savez.
Vois que vous êtes constant dans vos propos.
Ah, exactement. Ouais. De toute façon, on a le même gouvernement et en face, on a les mêmes problèmes qui n'ont jamais été résolus. Donc voilà, tout simplement.
Faisons un tour de table, justement, je voudrais m'assurer si tout le monde pense comme vous. Rafik Temgari, l'élu justement de Royal Ma Maison, et puis globalement, là vous ne représentez pas vous, évidemment votre mairie, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça, évidemment, cette loi, proposition de loi sur l'asile, sur l'immigration surtout, sur les métiers en tension?
Moi je pense qu'il a raison. Il a raison, parce que...
Je veux qu'on en débatte justement.
Tout à fait, mais voyons les choses en face. Aujourd'hui, en France, nous avons énormément de métiers en souffrance, où nous n'avons pas de personnes pour exercer ces métiers-là. En l'occurrence, aujourd'hui, ce qui a été vraiment déterminé, on a des couvreurs, on a des métiers de santé. Juste pour info, pendant le Covid, 20% des médecins qui ont traité les Français, c'était des médecins étrangers qui venaient de l'étranger.
Exact.
Énormément de spécialistes, anesthésistes, par exemple. Il y a des cliniques où ils n'arrivent pas à accoucher parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il y a un déficit. Et il faudrait faire appel à cette immigration choisie. Donc là, aujourd'hui, on ne voudrait pas faire un appel à un chauffeur de taxi, alors que peut-être énormément de personnes peuvent exercer ce métier-là. Mais c'est des
métiers... On parle des métiers en tension.
Tout à fait. Donc, et là,
que tout le monde refuse.
Ce qu'il dit le ministre, il faudrait mettre à jour cette liste-là chaque année. Et je me dis, c'est très très bien pour l'économie française parce qu'on est en déficit. Il faut dire la vérité, c'est pas la France qui les forme, alors que c'est des métiers qui sont pointus. Je veux dire, pour devenir médecin, il faudrait tellement de... Je pense que c'est 7 ans après le bac.
Ouais,
c'est des spécialités,
plus.
Etc. Donc je me dis, la France est gagnante à la fin. Donc pour moi... Il est important de faire appel à cette loi-là. Et après, je me dis, on connaît tous des sans-papiers. Les sans-papiers ont souffert et souffrent énormément, surtout depuis la dernière affaire de Lola. Donc, je me dis que...
Mais c'est quoi méchant avec les méchants, gentil avec les gentils? C'est-à-dire que quoi, ils veulent les taper, les employeurs voyous?
Alors,
comme il dit, c'est sa déclaration. C'est comme
oui,
ça qu'il
en l'occurrence,
dit.
En l'occurrence, il y a énormément d'employeurs voyous et il y a énormément d'étrangers résidents en France, gentils, dans le sens où moi... Je donne un exemple. Je connais énormément de personnes qui ont leur carte de séjour de 10 ans, qui vivent bien en France, qui travaillent en France, qui payent leurs impôts en France, qui n'ont aucun souci avec l'État ou avec la police ou autre, et qu'ils ont tellement de problèmes pour aller avoir un rendez-vous en préfecture, qu'ils ont tellement de donc surtout avec la période de
c'est
Covid.
C'est vrai, on a eu ça.
Donc aujourd'hui, je me dis, ces personnes-là sont des bons éléments.
Fawzi, il vous regarde, il veut dégainer. Il veut faire comme Elisabeth Borne, il dégaine lui, ça y est. Après, je donne la parole à... Je vous ai pas oublié, Jimmy Dalidou.
Pas de souci.
Mais allez-y, justement, il faut parler, il faut qu'on débatte.
Exactement, je suis d'accord avec ce qu'il explique. Sauf que, évidemment, quand il veut dire avec les gentils ou avec les méchants, c'est simplement avec ceux qui n'ont pas de casier judiciaire, avec ceux qui ne posent pas de problème. Mais c'est une hypocrisie parce que il serait temps, je dirais. Il serait temps de redonner le droit d'avoir des papiers, de travailler dans de bonnes conditions à des gens qui l'ont tellement réclamé, qui sont devenus des indispensables, que c'est pas tellement les compétences. C'est surtout les métiers les plus difficiles que l'ensemble de la population européenne ou française ne veut pas faire et que depuis des années, ce qui a amené la plupart des...
Alors pourquoi il est sous le feu des critiques justement? Parce que là, il en prend plein. Quand j'entends Rafik Temgari, il me dit que c'est plutôt une bonne chose parce que voilà, ça fait bosser les gens. Ça fait ramener une main d'œuvre effectivement de l'étranger spécialisé. Fawzi Lelouch est là.
Et ils sont là déjà depuis longtemps. Et depuis longtemps, nos parents... Nos grands-parents, la plupart de ceux qui sont là, ont connu les métiers les plus difficiles et il y avait leur place et on les attendait, on leur faisait une place.
C'était avant.
Mais c'est aujourd'hui. Non. Et aujourd'hui, dans le bâtiment, dans la sécurité, dans le ménage, dans les soins, dans tous les métiers les plus difficiles, c'est en pénurie parce que c'est des métiers difficiles que seuls les gens d'origine étrangère ou avaient peu de qualifications ou des qualifications d'étrangers qui ont obtenu leur qualification à l'étranger et qui sont venus en France ne sont pas reconnus, et ben pourtant l'exercent en toute hypocrisie. Parce que sans ces gens-là...
Et ben justement, c'est ce qu'il vous dit, Gérard Darmanin. Il dit, saisons l'hypocrisie.
Mais il serait temps. C'est exactement ce que je dis.
Combien... Donc vous êtes d'accord avec Gérard Darmanin, alors, finalement?
Et ben toutes les manifestations de sans-papiers qui travaillent dans les cuisines, partout, qu'on a pu voir, qui ont été réprimées, où une partie de la gauche a essayé de défendre, je me rappelle, la République, où ils ont été délogés parce qu'ils n'arrivent pas à vivre correctement dans ce pays, alors qu'ils sont des indispensables de ce pays, eh ben, ça s'appelle une immigration choisie, ça s'appelle une utilité publique, c'est pour le bien commun. Et j'estime qu'il était temps. Donc que ça sorte d'eux aujourd'hui, après les avoir réprimés, après avoir fait une politique d'autruche, tout ça pour s'opposer à la droite de RN, parce que pendant longtemps ils ont refusé qu'ils soient régularisés, c'est enfin aller dans le bon sens. Moi, pour une fois qu'une
décision, faisons un tour de table. Justement,
elle est mise en place et enfin mise en place, elle est discutée. Je sais que ça va pas plaire au Front National. Je sais que ça va pas plaire à tous ces gens-là qui veulent continuer à en fin de compte.
C'est pour le bien de la France.
En tout cas, la création d'un titre de séjour, les métiers en tension, c'est valable un an, renouvelable un an.
Le Front National n'a pas eu à débattre de ces questions-là parce que justement, aujourd'hui, ils nous faisaient croire que pendant longtemps leur discours c'était quoi ? C'était le social et tout ça. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des gens au gouvernement se chargeaient de parler de l'immigration et ils n'avaient plus à le faire.
Jimmy Dalidou.
Il y a deux éléments qui ressortent du discours du ministre. Moi, je vous dirais que décrypter le discours d'un élément opportuniste, comme tous ses collègues du gouvernement, ça reviendrait à... C'est une analyse incohérente. Il y a deux éléments qui ressortent de son discours.
Oui.
Premier élément, c'est de parler de métier sous tension. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de métier sous tension. Il n'y a qu'un gouvernement à 2,5 de tension et qui est incapable de répondre, à cette problématique qui est d'abord une problématique économique et sociale. C'est toute la France qui est sous tension pour la simple bonne raison. Il y a deux choses. Métier sous tension, ça c'est des termes à deux balles. Il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est que dans l'hôtellerie-restauration par exemple ou dans le bâtiment, c'est très difficile et c'est pas payé.
Oui, donc personne ne veut le faire. Pénurie de...
Deuxième chose, c'est que l'économie, c'est lié à l'économie pour comprendre cette France sous tension. C'est que l'économie se casse la gueule. Ça, faut pas l'oublier. Et si l'économie se casse la gueule, c'est parce que le mode de production est totalement irrationnel. Et je vous rappellerai aussi un élément qui reflète les propos très opportunistes. Je vous rappellerai que l'opportunisme est conditionné par la versatilité politique. Il vous a quand même parlé, c'est comme l'hôpital qui se fout de la charité, d'entendre de la bouche d'un Gérald Darmanin, de reprendre les termes de Karl Marx, qui vous parle de l'armée de réserve, d'abord, on appelle ça une armée industrielle de réserve, et je ne vais pas développer, j'en aurai pas le temps, mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, puisqu'effectivement, l'armée industrielle de réserve existe, mais elle est totalement liée à ce qu'on appelle la BTTP, belle tendance du taux de profit, aux purges des forces productives, et l'aliénation travail. Concrètement, ces personnes représentent un capital financier internationalisé qui exploite toujours plus la force de travail, et l'exploitation de la force de travail ne trouve pas de limite ethnique, raciale, etc. Une force de travail exploitée reste une force de travail exploitée, quelle que soit son origine.
On revient en parler, justement. On revient en parler. On reconnaît le discours du cégétiste.
Non, c'est une réalité.
Non, mais c'est vrai. On revient en parler. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et oui, Les Informés, c'est avec Faouzi Lelouch, Les Informés avec Jimmy Dalidou et enfin Les Informés avec l'élu, justement, qui nous vient de Royal Mamaison, le 92. Hein. Quel beau bassin.
Ah oui, une belle ville.
Ah, tu viens des petits bourgeois, toi, alors
un bourgeois.
Un bourgeois, tu sais, ça existe.
Un bourgeois.
Il y a une signification à ça. C'est les bourgeois.
Tout à fait.
C'est la bourgeoisie. Vous voyez,
exactement.
La bourgeoisie.
Royal Mamaison.
Royal Mamaison.
Oui, c'est vrai.
Royal Mamaison, vous savez où c'est précisément?
Ah oui, bien sûr.
Oui. Ville, quand même, où il y a le siège. Un des sièges les plus importants de Mercedes, quand même.
Le château de la.
Enfin, je fais pas de pub, mais bon.
Non, mais moi, je fais la pub pour l'histoire.
L'histoire.
Le château de la compagne de. Napoléon, donc.
Napoléon.
Joséphine.
Mais Napoléon, Joséphine, tu sais. Joséphine. Mais tu sais qu'il en a. Non, mais attends, il en a laissé des châteaux qui traînaient un peu partout en France, en Île-de-France notamment.
Ah oui, bien sûr. La route
dans le 78, il y en a beaucoup. Hein,
énormément.
De Rambouillet, Napoléon.
Au fait, la ville de Rueil-Malmaison a créé le réseau des villes impériales. Ouais. Et il y a énormément de villes impériales en France où là, c'est tout Napoléon où
Bah, tu m'étonnes dans la France
exactement.
Impérialiste.
Enfin, quand tu m'as expliqué jusqu'à demain, il l'a bien résumé.
Ouais, c'est ça.
Quoi, en le décrivant.
En plus, Joséphine a trompé Napoléon, c'est dommage pour lui.
Clochette, oh, facile.
C'est facile.
Qui trompait qui, on ne sait pas. Clochette. Trin, un petit coup de trin. Notre Real, là, il a pas dégainé, là. Allez, messieurs, revenons à nos moutons, justement. Nos moutons, c'est Darmanin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le sujet, c'est Darmanin, pardonnez-moi, le ministre de l'Intérieur, qui dit « Nous proposons de créer un titre de séjour métier en tension ». Donc revenons sur ce sujet, après évidemment l'analyse de notre représentant CGT, je voudrais vous entendre. Est-ce que finalement c'est une bonne chose, même s'il y a de vives critiques à la fois du RN, à la fois des Républicains aussi, notamment Éric Ciotti, Rafik Temgari, que doit-on comprendre ? Est-ce que un an ça suffit ou est-ce que... Voilà, est-ce que c'est plutôt une bonne chose? Ça nous permet d'avoir suffisamment une visibilité ou pas? Et comment doit-on, avant d'avancer, comprendre cela? Pourquoi c'est autant critiqué aujourd'hui?
Alors, c'est autant critiqué parce que ce n'est pas encore mis en place. Et chaque loi qui n'est pas mise en place...
Surtout qu'il y avait une loi avant. Toujours, il y avait une loi Asile et Migration.
Je pense qu'il y a eu pas mal de circulaires. Il y a eu la circulaire de Valls qui a fait en sorte de régulariser quelques métiers,
2012.
Etc. Je me rappelle plus de la date, mais je pense. Mais je sais que Sarkozy aussi a fait pas mal de cadeaux pour les restaurateurs, etc. Donc je me dis que aujourd'hui, si on prend l'exemple du Canada, le Canada utilise vraiment cette immigration choisie. Et c'est un pays qui attire énormément d'immigrés.
Très juste.
Partout, je dirais. Ouais. Ils partent vraiment partout. De partout. La différence du Canada, c'est que c'est un pays qui est relativement loin et pour accéder, on peut pas y aller sans papier. Je veux dire, même sa position géographique fait en sorte que pour aller au Canada, on passe par un process.
Et puis l'Europe a besoin de main d'œuvre.
Tout à fait.
Tout simplement. L'Allemagne, la France,
on a énormément de sans papiers, ce qui est très problématique pour le gouvernement. Comment faire pour régulariser ces sans papiers là? On le sait très bien que dans l'histoire,
ils sont difficilement expulsables.
Et surtout que chaque fois qu'on régularise une tranche, bah, ça fait appel à énormément d'autres sans-papiers qui viennent d'autres pays européens où ils disent actuellement c'est en France, ils sont en train de régulariser, on va venir s'installer en France. Donc le gouvernement est face à un problème où dire comment je vais gérer ces flux d'immigrés qui vont venir s'installer chez moi. J'ai besoin juste d'une partie d'eux, j'ai pas besoin de toute cette totalité-là. Et je me dis, il est important de mettre en place ce genre de loi et faire un essai et voir. Encore une fois, il le dit le ministre, c'est sa liste, cette liste des métiers, attention, est mise à jour chaque année. Donc aujourd'hui, cette année, on a besoin de médecins, donc on met les médecins. L'année prochaine, on a besoin de pilotes ou, je sais pas, d'animateurs radio, bah, on le mettra à jour. Donc je me dis que c'est important de
Fawzi Loulouch.
Pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, ces personnes issues de l'immigration sont déjà sur le territoire.
Et non, mais on parle de son papier.
Non, mais oui, mais
les personnes.
C'est même pas le problème d'essayer de trouver un argument pour essayer.
Non, mais c'est
dans...
ça la différence. Non, mais je suis désolé.
Ah, mais je peux terminer parce que tu vois, je t'ai même pas coupé.
Vas-y.
J'aurais pu.
Il développe, mais après vous confrontez votre point de vue, c'est aussi le lieu.
Vas-y.
Je pense que là, c'est peut-être pour montrer un frein pour ceux qui voudraient venir, c'est-à-dire donner une légitimité au fait que, voilà, à partir de maintenant, si vous venez, c'est à cette condition. Mais moi, je veux plus appuyer sur le fait de ceux qui sont déjà là et qui mériteraient depuis longtemps d'être régularisés parce qu'ils ont déjà contribué au fait que, bah, dans la société, ils ont apporté leur contribution financière par leur sueur, par leur travail, et qu'il est normal de les régulariser. Ça, c'est une chose. Donc, après qu'il y ait une immigration choisie, pour reprendre les termes de l'époque qui avaient été refusés, ça n'en reste pas moins, à mon sens, quelque chose de logique, parce que, pour moi aussi, je m'aperçois que ce gouvernement est en perte d'idées politiques. Et qu'il prend beaucoup d'idées des Républicains. C'était Sarkozy, à l'époque, qui en avait parlé, et aujourd'hui,
l'idée c'est bonne à prendre de tout
bord. La République en marche a besoin d'avoir des soutiens à l'Assemblée nationale, et je pense que ils sont depuis longtemps en pourparlers avec Sarkozy, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, et ils gagneraient à avoir des aides
Sarkozy, des républicains
pour faire voter certains décrets, certaines lois.
Bon.
Et je pense que tout ça tombe en même temps, comme par hasard, et ça permet en même temps de répondre à une certaine opposition
rapidement.
Du Front National.
Alors déjà, et après, vous allez comprendre pourquoi. Rafik, voilà. Et après, je vais vous amener sur un autre terrain.
Déjà, peut-être que je me trompe, hein, mais...
Non, c'est votre avis.
Moi, je pense que déjà, on va écarter Sarkozy.
Ensuite, Jimmy.
Il ne fait plus partie officiellement des Républicains.
Il souffle à l'oreille de Macron tous
les
jours.
Je veux dire, ils ont une bonne complicité, mais aujourd'hui, il est plus représentatif chez les Républicains. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, quand on parle des personnes qui sont sans papier et qui sont en France, très souvent, la démarche pour les régulariser se vient par leur employeur. C'est pas eux-mêmes qui partent pour
pouvoir
régulariser.
Non, mais ça, c'est juste de l'administratif.
Oui, mais c'est important à le savoir. C'est qu'aujourd'hui...
Ça change rien.
Si, ça change beaucoup. Parce que c'est pas un gouvernement qui va mettre en place un décret et qu'on va dire telle personne qui était là pendant combien de temps, qu'ils ont déjà travaillé.
La finalité, c'est de régulariser les gens qui y travaillent et qui
raison
apportent.
De plus, tout à fait.
Mais on est d'accord sur ça.
On est d'accord, mais qu'est-ce
qu'on
fait des autres personnes
Pourquoi ça vient maintenant?
Mais qu'est-ce qu'on fait des autres personnes qui sont en France qui n'ont pas
C'est l'OQTF. L'OQTF, l'affaire Lola, fait rejaillir effectivement cette loi.
Il a expliqué que c'était pour orienter des gens vers des filières où il y a des manquements et essayer de continuer
justement,
à utiliser les gens à bas coût et de servir ceux qui en ont le plus.
Alors justement, cette future loi, tiens Jimmy Dalidou, cette future loi c'est aussi, vous savez quoi ? Alors il dit, aider ceux qui bossent et être dur avec ceux qui font des actes de délinquance. C'est quoi derrière ? Cette future loi sur l'asile et l'immigration, elle traduit effectivement elle passera le premier semestre 2023, elle doit introduire une série, sachez-le messieurs, de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire, ce qu'on appelle les OQTF, rapidement. Mais bon, on sait que c'est compliqué. Jimmy Dalidou.
Oui, alors, d'abord je pense qu'il y a une contradiction qui va se cristalliser avec cette démarche politico-politicienne. C'est que beaucoup vont se poser la question...
Non, mais ceux qui sont ciblés, c'est l'OQTF.
Oui,
derrière
ça. Les auditeurs vont se poser la question, concrètement, en se faisant l'avocat du diable, on va dire, pourquoi... régulariser des immigrés par rapport à des métiers, alors que dans le même temps, vous avez plus de 6 millions de chômeurs en France. Beaucoup se posent la question. Donc ce gouvernement, il va falloir qu'il réponde à ça.
Mais ils sont pas spécialistes
dans ces
métiers.
Et je finis. Sur les 6 millions de chômeurs en France, t'as forcément des spécialistes. T'as forcément des personnes qui voudraient partir en formation.
Il y a
très peu de pharmaciens.
Je rappellerai que l'hôtellerie restauration, par exemple, la restauration française, qui, vous le savez bien, qui avait une tribune mondiale, est une spécificité, est une beauté de la culture française. Et je suis certain que sur les 6 millions de chômeurs, t'en as beaucoup qui aimeraient partir en formation pour apprendre le métier de cuisinier.
Mais c'est ce que les
la question va se poser. Ensuite, je reviendrai sur un autre élément, sur la question d'immigration. Je pense que cette notion d'immigration.
Et vous allez vous répondre. Utilisée.
Pourquoi? On ne parle pas. Il faut arrêter de parler d'immigration, il faut parler d'utilisation de la force de travail. Et vous savez très bien que dans une économie mondialisée, c'est-à-dire un capital financier mondialisé, et vous avez dit, Macron, qu'est-ce qu'il vous a dit la dernière fois dans une interview ? Quand la journaliste lui a posé la question, est-ce que vous voulez protéger la France ? Est-ce que vous voulez un protectionnisme ? Il vous a dit, non, je ne veux... Non, il vous a dit ça mot pour mot, je ne veux pas de protectionnisme... Je ne veux pas protéger la France. Donc il n'y a pas.
Il n'a pas dit comme ça. Sinon, il aurait pris un tollé. Ne faisons pas de raccourcis. S'il vous plaît. Rafik. Attendez. Rafik Temgari. Et ensuite, on avance. Parce qu'on est obligé d'avancer sur d'autres sujets. On en a encore plein d'autres.
Rafik Temgari. Ce que je veux dire de Jimmy, c'est qu'aujourd'hui, énormément d'employeurs cherchent des employés et qui ne trouvent pas. Alors, dans ces 6 millions de demandeurs d'emploi, il y a des emplois où on n'arrive pas à recruter. En l'occurrence, la restauration.
Exact.
Donc certes, dans les six
très compliqué la restauration.
Il y a des personnes qui
les
peuvent
conditions
éventuellement.
Normales,
mais tout à fait. Donc c'est pour cela.
Mais les salaires
donc,
aussi. Aujourd'hui, ils sont trop bas.
Bah, les salaires, il faudrait peut-être revaloriser
mais
les
pas,
métiers.
Macron. C'est justement tout le problème.
On va en parler. C'est le sujet.
C'est pas le président qui veut pas.
C'est le MEDEF.
Exactement.
On en parle, messieurs. Vous savez quoi ? Attendez. On va en parler parce que c'est un sujet justement. Qu'on vous retrouve tout de suite après, là dans les minutes qui arrivent. On va juste marquer une courte pause, on se retrouve dans une polyminute. Ne bougez pas, restez avec nous, c'est les informés.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et le débat continue en ce vendredi, vous le savez, avec Faouzi Loulouche, avec Rafik Temgari et enfin avec Jimmy Dalidou. Vous m'avez permis tout à l'heure, juste avant la pause, eh bien, de parler de l'indexation des salaires sur l'inflation. La déclaration du chef de l'État nous a pas échappé, il est contre. Bruno Le Maire rejette l'idée de nouveau sur une indexation sur les salaires de l'inflation. Ben justement, on est en plein dedans, parlons-en. Faouzi Loulouche.
C'est la cause de tous les problèmes.
Ah,
il y a trop de charges. Il y a trop de charges, il y a trop de taxes sur les salaires et les difficultés de la plupart de ceux qui embauchent ont ces difficultés à pouvoir le faire correctement. Pour avoir moi-même créé de l'emploi, avoir eu jusqu'à 8 salariés, je vais vous donner un exemple. Je n'étais pas un centre de profit, j'étais une association à but non lucratif sur lequel bah, tous les trimestres, j'avais 8000 euros de charges d'URSSAF. Ça vous parle.
Donc c'est beaucoup pour. C'est beaucoup.
Mais il y a trop de charges. Donc vous diminuez les charges. Il n'y a même pas nécessité forcément de dire on va augmenter que les salaires.
Et pourtant vous c'est une association donc but non lucratif.
À but non lucratif.
Donc pas de bénéfices, pas de.
Pas de bénéfices voilà. Tout ça. Donc c'est encore plus difficile.
Et vous étiez dans le gouffre.
Mais dans le gouffre parce qu'on dépend de la bonne volonté de ceux des aides et ça c'est pas normal parce que on produit en même temps vaut mieux quelqu'un d'actif. Plutôt que de quelqu'un d'inactif qui soit au chômage. Même s'il a un bas salaire. Mais dans tous les cas, s'il y avait moins de charges sur
mais le chef de l'État, il vous répond, et Bruno Le Maire, il vous répond, il vous dit, mais attendez, si on fait une indexation sur les salaires, et ben justement, ça veut dire que demain, si l'inflation retrouve son taux normal, et ben il va falloir revoir le salaire.
Il a dit n'importe quoi.
Demain, tu relèves les salaires plus facilement, parce que tu as moins de charges, et tu peux payer décemment les gens, ou même embaucher et multiplier, du coup, soulager la masse de travail sur une personne. Tout simplement. Le problème, c'est pas de savoir comment ils vont aider à faire pour payer les salaires. C'est surtout comment on va arrêter d'être taxé pour pouvoir payer décemment les gens et pour que tout le monde y trouve un épanouissement.
Rafik Temgari et Jimmy Dalidou.
Alors, c'est marrant parce que d'un côté, on veut aider les personnes, donc aider son prochain avec grâce à ces taxes qui sont là. Et d'un autre côté, bah, il faudrait qu'on change un petit peu et qu'on enlève ces taxes-là. Donc je me dis que, sincèrement, c'est vrai, il faut faire une réforme. La réforme, pour moi, la plus importante, c'est que en France, on est un des seuls pays ou des rares pays où on a une grande différence entre le net et le brut. Donc quand on touche, je sais pas, 2000 euros brut,
autant de charges.
Exactement. Oui. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être faire en sorte que les gros salaires, peut-être, ils puissent être plus taxés, moins que les petits salaires. Et ça, c'est.
Mais ça existe.
Macron l'a mis en place,
le chef de l'État Emmanuel Macron, pour les associations notamment, les emplois jeunes ou comment on appelle ça.
Quand je dis, qui
vous permettent justement de diminuer les charges.
Oui, quand on prend une fiche de paye, n'importe quelle fiche de paye, quand vous voyez le nombre de taxes qui sont prélevées à votre salaire brut, sont phénoménales pour moi. Donc je me dis, certes, le président Macron a mis en place des paliers. Donc plus vous gagnez votre salaire annuel, plus vous êtes taxé. Mais ça, c'est les impôts sur les revenus.
Pas du tout.
Mais c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Tu reproduis exactement ce que j'ai dit.
Oui, je dis juste que.
Donc t'es d'accord avec moi.
Je suis d'accord sur réduire, mais je suis pas d'accord sur le fait de ne pas aider son prochain. Parce que toi,
tous ceux qui produisent aujourd'hui, on parle de l'augmentation des salaires là. Ça fait 4 ans qu'on
parle de l'augmentation des salaires.
Quand on est sorti dans la rue, on a dit on n'arrive plus à vivre de ce qu'on produit.
C'est clair.
Eh ben, point. Donc, moi, j'ai pas besoin qu'on m'en redistribue, qu'on me donne des chèques, qu'on me donne des aides aux employeurs.
Mais c'est ce que tu dis. Tu dis qu'il faut pas, exactement. Il faut pas aider les autres, il faut créer de l'emploi. Ben non, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des personnes
qui n'ont pas aidé tout le monde.
Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai un pépin, un souci
de
santé.
Si demain t'as moins de charges, t'as obligatoirement.
Je voudrais bien que l'État m'aide. Donc, c'est grâce à ces taxes-là.
Mais j'ai pas besoin qu'ils m'aident, qu'ils arrêtent de m'en prendre. C'est moi qui produis.
Mais tu peux pas produire quand t'as un souci de santé, quand tu es au chômage.
J'ai pas dit de pas payer de charges.
Donc c'est pour cela, il faudrait avoir ces taxes-là et ces charges-là, mais il faudrait qu'ils soient limités.
Ce qui nous a fait sortir dans la rue depuis 4 ans, c'est une chose. C'est qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils taxent ? D'une, on reprochait qu'il soit mal réparti et souvent, il y en a...
La rue, justement, c'est les gilets jaunes. Un des leaders, Faouzi Loulouche, des gilets jaunes.
On peut dire que l'État a fait beaucoup de choses.
Et il y a des gens qui sont privilégiés, eux... Je les vois pas suer à la peine.
Je les vois profiter de toute la sueur de la population. Il y a un élément que tu
Jimmy
dis, je suis d'accord avec toi sur le fait. Il y a un principe de base, un principe de départ qui est clair. c'est le fait que le profit, c'est une confusion qui est semée dans les esprits par les gouvernements, qui consiste à faire croire que le profit est généré par la circulation des marchandises, par la vente des marchandises. Non. Le profit, quel que soit le profit, est généré, il est créé par la force de travail humaine exploitée dans les processus de production. Ça veut dire quoi ? Pourquoi il vous a dit on n'augmente pas les salaires pour trois choses ? Première chose, si tu augmentes les salaires, tu augmentes les cotisations sociales, salariales. Si tu augmentes les cotisations sociales salariales, tu augmentes les possibilités de financement de
c'est
ta retraite.
C'est comme le principe du coût de l'essence.
Attends, je finis. Est-ce qu'il rendrait inutilisable et obsolète leur réforme de la retraite à point ? Et ça, c'est pas possible parce que les multinationales attendent pour spéculer sur les retraites, les complémentaires retraites privées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il vous pose une équation.
Il parle de primes. Les primes, c'est
ensuite,
bien.
Ensuite, il pose une équation qui est.
C'est pas tout le monde qui peut les donner, les primes.
Oui, attendez. À cette équation salaire, prix et inflation, effectivement, quand il y a inflation, augmentation des salaires, les deux fonctionnent ensemble. Mais il faut ajouter un troisième terme à l'équation qui est le profit du capital. Et si tu tapes dans les profits du capital, oui, tu augmentes les salaires indépendamment de l'inflation. Oui. C'est ce qui passait en 1968. Et je finirai par un élément que tu as relevé, Faouzi, effectivement.
Tu peux pas contrôler l'inflation.
Les TPE, PME, PMI, ils ne peuvent pas augmenter les salaires parce que les multinationales ne payent pas ou quasiment rien. Et ceux qui ne payent pas se répercutent sur les charges sociales des petits patrons. Ce qui fait qu'ils sont étouffés financièrement. Ils payent ce que les multinationales.
On fait quoi alors ? On fait quoi ?
Bah, aujourd'hui, on diminue les charges.
Bah déjà, il faut récupérer notre fric.
On diminue les charges.
Récupérer
les fric. Voilà, dit l'autre. Et Rafik, vous dites quoi ?
Sur les produits de première nécessité, tout
ça,
ce
c'est
qui
pas
est essentiel. Au même titre que.
Vous dites quoi ?
L'essentiel des gens. On les soulage.
Moi, je dis que aujourd'hui,
on les soulage d'un côté. Et vous ?
Moi, je dis que dans le privé, il y a énormément d'entreprises qui se portent très très bien et je peux en témoigner. Très souvent, la répartition se fait vis-à-vis des actionnaires. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment essayer de mettre en place. Il faudrait mettre en place aussi un système où les salariés peuvent aussi bénéficier assez avoir leur part du gâteau. Donc, aujourd'hui, c'est pas très répandu en France, c'est quelques métiers. Je prends l'exemple de notre société. C'est très souvent les commerciaux qui font cet effort. Donc ils ont une part de ce gâteau-là. C'est pas le cas de la secrétaire ou de l'assistante ou la femme de ménage.
Bon, une fois qu'on est d'accord sur ça, comment on fait pour le faire appliquer ?
Mais je pense que
appliquer, parce que tout le monde est d'accord.
Je suis d'accord, mais je dis, lui, syndicaliste, moi, je suis un simple citoyen, mais je suis dans un pays de droit. Aussi.
Ouais, avec un 49-3 tous les quarts d'heure. Il faudrait faire en sorte de négocier
avec le patronat. Donc c'est le patronat qui a beaucoup de poids.
Mais il négocie pas lui. Il se complaise dedans.
Mais il y a énormément de négociations entre le gouvernement et le patronat.
On en a marre des négociations du blablabla, augmentation des salaires immédiatement. Le souffrance au travail n'attend pas.
Si on analyse la souffrance au travail n'attend pas. Alors on a vraiment eu
les gens non mais les gens ils souffrent trop déjà. Il y a pas besoin de négociation de blabla. Il faut augmenter les salaires.
Comment on arrive au résultat alors?
Comment? Non, mais attendez, j'entends bien ce qui se dit et c'est très intéressant, effectivement. S'il n'y a pas indexation, aujourd'hui, l'inflation, elle augmente. Les prix flambent. Quelle solution, évidemment?
On a entamé la récession, hein.
Effectivement.
On nous a dit déjà,
on est
de
en plein dedans.
Il y a deux solutions.
Jimmy Dalido.
Deux solutions. Je pense que, premièrement, il faut augmenter les salaires, mais corrélativement à l'augmentation des salaires, vous bloquez les prix. Et, troisième élément, vous faites en sorte que les cotisations sociales des petits patrons soient allégées en faisant plus payer les multinationales qui ne payent pas d'impôts.
D'accord.
Pas assez d'impôts dans ce pays.
Mais qui
il faut agir sur ces trois leviers. Si vous agissez sur les trois leviers, déjà vous allez voir que ça ira mieux.
Faouzi Lelouch.
Mais qui peut arriver à faire obtenir ce résultat-là ?
Mais ça, on l'aura dans les luttes sociales.
C'est pas les syndicats, parce que tu sais très bien.
Jaune. Dans les luttes sociales, on va y arriver.
Mais on a essayé,
le gouvernement, c'est pas ce qu'il veut.
On a pris des coups de matraque et à coups de gazage et LBD et grenades de désencerclement.
On était tous les deux.
Ouais, bah alors. Les syndicats, ceux qui représentent les cadres, sont en bon compromis avec l'État. Donc, ils obtiennent plus rien depuis longtemps.
Et les partis politiques,
ils n'arrivent pas à obtenir satisfaction, sinon ils se font taper.
Il y a un problème au niveau de la direction syndicale.
Exactement, pas des syndicats.
Mais une ligne de démarcation doit être tracée entre la base militante et travailleuse et la direction syndicale.
Qu'est-ce que vous attendez?
On attend qu'une convergence des luttes se fasse.
Mais elle a eu lieu déjà. Depuis 4 ans, on les a attendus, ils ne sont pas venus.
Elle a commencé.
Il n'y
a
que des syndicats. Tu sais bien que c'est un travail moderne.
Non, mais c'est vrai, elle a eu lieu, c'est ce que vous dites.
C'est tellement tendu qu'un jour ou l'autre, à force de tendre toutes les cordes, elles vont finir par péter. Mmh. Et là, tout le monde, là, ça va être compliqué après pour savoir qui a raison, qui peut représenter l'un.
Logiquement, on tire. Alors, oui, forcément. Alors,
c'est très marrant.
Rafik Temgari, qu'est-ce qui est marrant?
Marrant.
Drôle. Entre les syndicalistes, il y a des syndicalistes qui sont un petit peu plus.
Et toi, tu représentes
Je ne représente rien du tout. Non. Pour l'instant, je représente moi-même. Pour l'instant, je suis là pour commenter l'actualité et de dire que quand on a ce genre de désaccord, on voit très très bien.
Mais
je parle que les syndicalistes ne sont pas tous
d'accord. Tous les trois ont dit la même chose depuis tout à l'heure.
Oui, mais quand on voit la CFDT, la Force ouvrière, etc., il y a des tensions et qui ne sont pas. Donc c'est pour ça que je parle des syndicalistes. J'ai bien dit le mot syndicaliste. Aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord et que la solution se trouve pour moi. Selon la négociation doit être faite diplomatiquement et ne pas avec la force, parce que la force.
Mais qui va parler?
Les représentants.
Mais c'est qui les représentants?
Les représentants qui sont élus. Vous, on est bien dans une démocratie.
Ils ont un pouvoir, les représentants, à part le gouvernement.
Ceux qui ont les mains sur le levier. On est encore dans une démocratie.
Mais il y en a pas.
Mais aujourd'hui. Vous avez bien un élu qui est à la tête de votre syndicat.
Il est élu, je pense qu'il faut revenir à un élément important.
Il faudrait se mettre autour d'une table. Tracer le chemin de route, la feuille de route, et essayer d'avancer. Mais il faut pas.
Il y a deux éléments.
On marque une pause, messieurs. On va parler du 49-3 parce que Fauzi en a parlé. Et justement, Elisabeth Borne souhaite dégainer un autre 49-3. On en parle, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, si vous venez de le retrouver avec Fauzi Loulouche, les informés avec Rafik Temgari, et enfin les informés avec Jimmy Dalidou, messieurs, mesdames, tout de suite nous allons parler du 49-3, vous savez, Borne qui a dégainé Elisabeth Borne, la première ministre, qui à nouveau utilise le 49-3, et puis de l'autre, en face d'elle, et les filles, la France Insoumise, qui elle dépose une motion de censure. Jusqu'à quand peut-on aller, Jimmy Dalidou, effectivement
Elisabeth Borne dépasse les Borne.
Il mérite une clochette. Facile.
Non, mais il dort là.
Tariq, t'es avec nous? Il est pas là, Tariq. Hein, il est...
là,
ah ouais, la clochette là. Lui, il dégaine pas.
Il sait même pas pourquoi.
Lui, il dégaine pas. Motion de censure, on va lui donner la motion de censure.
Alors. Il y a un élément clé, enfin un élément de départ qu'il faut. Voilà, il faut recadrer les choses. Dans un gouvernement comme le nôtre, c'est-à-dire dans un gouvernement qui est issu, la France est un pays impérialiste, il ne faut pas l'oublier.
Et l'impérialisme, ça c'est votre regard à vous.
La principale caractérisation de l'impérialisme, et vous allez comprendre pourquoi j'y arrive. C'est le capital financier. Ça veut dire quoi le capital financier international?
Le marxisme jusqu'au bout.
Ça veut dire que le gouvernement est intégré au rouage de fonctionnement des multinationales. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire
mais
que
mais ça a changé, ça a changé, ça.
Non,
Jimmy Dalidou, arrêtez. Mais ça a changé, ça s'est fini tout ça.
Mais non.
C'est pas la Chine ici, cher ami.
Ce serait mieux.
Ouais, vas-y.
Si, pourquoi ils utilisent le 49-3? Parce que les multinationales et leur rouage de fonctionnement qui est l'exécutif n'attend pas. Il y a des lois à faire passer. Ils doivent spéculer. L'investissement spéculatif.
C'est un droit qu'ils
utilisent. Et l'opposition. C'est bon. Ils n'ont pas besoin de cette parodie parlementaire. Il faut aller vite.
Moi, je me dis tant que c'est un droit.
Ils n'ont pas besoin de cette parodie parlementaire qui est mise en
application. Ils ont besoin du budget. Comment tu veux qu'on fasse avancer la France? Non, la France, son budget, comment on fait alors?
Exactement.
Pas de 49-3, on fait comment pour gérer la France?
Ce qui fait fonctionner la France...
Comment l'État, sans le budget voté par l'Assemblée, peut avancer?
Un référendum populaire, vous demandez aux Français ce qu'ils pensent.
Bon, Rafik Temgari.
Ils sont incapables de faire.
Justement, on va en parler.
Je vais mettre juste un parallèle. Le pays, la France... une entreprise personnelle. Et je pense que dans vos auditeurs, il y a certains qui ont leur propre entreprise.
Aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir un budget pour l'année prochaine, on ne peut pas se projeter. On ne peut pas dire je vais consommer combien d'électricité, je vais consommer combien, je vais payer combien. Comment je vais... Donc la France, un pays, il est géré plus ou moins de la sorte.
Tu parles d'un budget de fonctionnement.
Tout à fait. D'accord, donc aujourd'hui, on est obligé. Donc on sait très bien que le gouvernement en place n'a pas la majorité, a juste une petite majorité
tu
absolue.
Tu parles du budget dans lequel la taxe sur les sans-profits a été balayée d'un revers de la main.
Mais tu parles de ce projet de
budget. Mais elle va dégainer comme ça jusqu'à quand le 49.3 parce qu'il y a une limite, non ?
Non, c'est
oui, je sais que c'est nos limites.
Donc
je
me dis qu'aujourd'hui, il y a une constitution. Dans la constitution, c'est dit
que. Ce qui est nos limites, c'est la connerie du gouvernement.
Ça, Rafik Temgari, il faut qu'on se le dise. Peut-être qu'à un moment, le chef de l'État va aussi faire des dissolutions de l'Assemblée. Il ne peut pas passer sa vie. Il ne peut pas passer sa vie avec le.
Surtout pas.
Il est bon, lui, il est bon. Il ne peut pas passer sa vie non plus. Il ne peut pas passer sa vie avec le 49.3, non ?
Non, mais je dis, si on veut qu'elle n'utilise pas, c'est plus un droit, donc il faudrait changer la constitution.
Mais le chef de l'État, il va pas ad vitam aeternam utiliser le 49.3.
Bah, j'espère bien.
Donc la dissolution, elle va s'imposer d'elle-même à un moment.
Banaliser. Donc le fait qu'on ait banalisé ce 49.3, il faudrait faire en sorte que le chef de l'État rentre en scène, dire vous êtes ma première ministre, mais aujourd'hui elle a le droit, c'est ce qu'il faut.
Elle
dire.
A le droit, ça c'est vrai.
C'est
démocratique.
Et c'est démocratique. Donc,
ça fait longtemps qu'on dénonce que le système s'est tellement protégé, les gouvernants se sont tellement protégés avec des décrets, avec des lois, qu'aujourd'hui il n'y a plus une vraie démocratie. C'est juste celui qui a les. Je termine. Celui qui a les mains sur lui. Celui qui a les mains.
Là.
Attends. Quand
est-ce que justement alors,
démocratie.
Pourquoi
parce que c'est il faut aller voir dans d'autres pays où il n'y a pas de démocratie.
Je vois ici, moi.
Et se dire qu'on est très très bien. On est bien content d'être en France et en démocratie.
Celui qui a aujourd'hui les mains sur les leviers, il peut tout. Parce que le système.
Mais la Constitution le prévoit, mon cher Fawzi Lellouche.
Et des décrets sont faits.
Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ceux qui ont la gouvernance.
Point. Dans ce cas-là. Comme on est dans une démocratie, on n'a qu'à l'opposition qu'elle devienne élue, elle vient en place et elle change
depuis longtemps. Sans être élu, moi je suis désolé.
On peut pas changer.
On doit donner aussi
une minorité.
On doit donner
si
aussi.
On est élu, c'est
on
le,
doit
c'est,
donner
c'est la
aussi une parole à la parole citoyenne.
Et on
la
fait quoi alors? Si elle dégaine pas le 49.3, on fait comment, Fawzi Lellouche?
Comment
elle avance la première ministre, le gouvernement, l'exécutif?
Ils vont avancer en piétinant tout ce qu'il y a autour d'eux parce qu'ils utilisent les armes de décret et de loi qu'ils ont. Mmh. Il faut changer ça, il y a un problème.
Mais pour pouvoir la parole,
donc vous voulez faire une refonte totale de la Constitution.
Exactement, et en donnant une part aux citoyens qui
Jean-Luc
est capable
Mélenchon
aussi
n'est pas premier
de
ministre,
pouvoir décider
n'est pas président.
De ce qui sera voté ou décidé pour lui.
Il suffit d'aller voter et d'avoir des représentants
qui n'ont plus de pouvoir. Je suis désolé,
49.3.
L'opposition n'a plus de pouvoir.
C'est pour cela.
Pourquoi on est sorti dans la rue? Parce que personne était capable de pouvoir nous apporter une représentativité de simples citoyens. Moi, qui m'entend? Qui m'écoute? Qui me suggère ce qu'il faudrait ou pas faire? Personne. Je suis jamais sollicité.
C'est pour cela qu'il faut s'engager.
S'engager, c'est rentrer dans un système.
Mais pas forcément.
Toi-même, tu as dit la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, ils l'utilisent parce qu'ils la connaissent sur le bout des ongles.
Mais heureusement, pour cette raison-là où je dis si jamais
parce
on
que
veut
empêche,
que demain faire changer les choses,
ça empêche
la
l'égalité sociale, ça empêche la justice sociale, ça empêche l'équité sociale.
Jimmy Dalidou.
Il y a une question qui se pose et qui est importante et qui effectivement, je suis plutôt d'accord avec Fawzi, c'est que la problématique qui se pose, c'est que comment se fait-il?
Oui.
Comment se fait-il qu'une personne qui a été nommée, Madame Borne, il y en est plus de 60 millions de Français en France. On est plus de 60 millions à peu près. Une personne décide pour les 60 millions de Français.
C'est le rôle de la première ministre.
Alors comment ils doivent.
Laisse-moi finir.
Comment elle doit décider à toutes les décisions qui doivent être prises et qui impactent la nation doivent être des décisions collectives. C'est-à-dire qu'il doit y avoir connexion entre elle et la population. À partir du moment où il n'y a pas de connexion entre un représentant et la population, elle cesse de représenter la nation.
Simplement.
Ah ouais, je pense qu'il y a deux chambres.
Donc à partir de là, on ne parle pas de démocratie, on parle de Non, on parle de dérive autoritaire. On parle
de dérive autoritaire. C'est très représentatif.
C'est-à-dire qu'une personne
de
prend les décisions pour
de la 60
millions de personnes
française.
Sans qu'il y ait connexion avec la masse.
Moi, je dis qu'on est responsable de cette situation.
Alors, Fauzi et Rafik Temgari.
Depuis des années, on est responsable de cette situation pour avoir laissé faire notre responsabilité de l'avoir confié à des gens qui ne méritaient pas de l'avoir. Et ils en jouent tellement, ils se sont tellement protégés qu'aujourd'hui, pour les détrôner, c'est quasi impossible. Aujourd'hui, ils consultent plus les citoyens. T'as des bonnes idées, il a des bonnes idées, j'en ai des bonnes. À nous trois, on peut arriver à un consensus. On nous écoute pas. Ils regardent que leurs intérêts pour continuer à préserver leur pouvoir et à influencer les directions et garder justement la main sur tout ça.
Rafik.
Alors,
Rafik.
Là où je suis vraiment bien pas d'accord, parce que je me dis.
T'es bien ou pas?
Non, je suis pas d'accord sur certains points. Après, certains points, si, on est d'accord, Fauzi, sur certains points.
Faut dire lesquels alors?
Mais moi, aujourd'hui, là où je suis pas d'accord, je me dis
sur
que.
Les points où on est d'accord.
Là où je suis d'accord, tout à l'heure, tu as parlé de la différence entre le brut et le net et je t'ai dit oui, je te rejoins. D'accord. Mais là où je suis pas d'accord aujourd'hui, c'est que, les gens ne s'engage pas politiquement. On n'a pas de représentants politiques parce que on a un échec.
Tout le monde ne peut pas gouverner. Tout le monde peut,
Fauzi.
La bonne idée, elle peut venir de n'importe qui, d'un enfant même.
Même d'un enfant, mais non.
Exactement.
Et écoutez,
c'est pas la majorité qui a forcément raison.
Restons justement au sein du débat de l'hémicycle.
Alors, ce que je dis aujourd'hui. On a, sur un échec politique, des partis qu'on connaît, de droite, de gauche, d'extrême droite, etc. On n'a pas un parti qui doit être assez important, c'est la société civile. Donc c'est des personnes ils commencent à s'intégrer peu dans les partis traditionnalistes, mais aujourd'hui, on n'a pas un représentant d'une personne qui ne se retrouve ni à droite, ni à gauche, ni au centre, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Donc je me dis, aujourd'hui, tu parles bien, t'as des bonnes idées, il parle bien, il a de bonnes idées, mais il se sent pas, exactement, il y a
pas d'engagement. Pour ça, je devrais leur ressembler et devenir comme eux.
Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a pas de représentant, il faudrait s'engager politiquement, il faut s'engager localement pour essayer de mettre en place.
Donner une place aux citoyens.
Bah oui, mais cette place.
Et qui peut le faire, ça?
On nous la donne pas.
C'est les gouvernants.
Mais vous dites, on nous la donne pas. Regardez.
Mais on est d'accord.
C'est comme ça qu'il faut s'engager, c'est comme ça qu'il faut mettre.
Quel rapport de force,
le rapport de force, c'est la quantité. Si demain t'as plusieurs de personnes qui sont
les gens qui sont sortis dans la rue, on leur a envoyé
ils étaient plus extrême gauche, ils étaient beaucoup plus.
Moi j'étais un simple.
Alors attendez, dans l'ordre, s'il vous plaît. Fauzi Louloud, Jimmy Dalidou.
Voilà, moi je suis un simple citoyen, je suis encarqué de nulle part. On peut pas m'incriminer de quoi que ce soit, et pourtant j'ai réussi par mes actions citoyennes à changer mon quartier.
C'est ce qu'il faut.
Donc, en prouvant que c'était possible, en face, on les dérange parce que.
Vous pouvez nous rappeler la ville, dans le 93.
Je suis à Sevran dans le 93. Voilà, je suis
ville
à Sevran.
C'est ce qu'il faut.
Oui, mais ce qu'il faut.
Des actions comme ça.
Aujourd'hui, quand on a réussi à démontrer que c'était possible de le faire, aujourd'hui, on nous empêche de pouvoir continuer à le faire. Justement, parce qu'on a prouvé que c'était possible.
C'est ça le combat politique.
Oui, non,
c'est qu'il faut pas faire marche arrière. Non, mais. Il faut pas.
Quand j'ai vu qu'à mon échelle, c'était plus possible d'arriver à maintenir ces actions. J'ai pas fait marche arrière. Je suis parti dans la rue. Non, je suis parti dans la rue et je suis allé dans la rue en guise de réponse. On m'a envoyé des armes non létales.
Oui, mais
où il y a eu de la répression.
Mais
aujourd'hui,
c'est pas comme ça.
La première ministre, qu'est-ce qu'elle fait?
Par
le 49-3, le 49-3, c'est une arme non létale.
C'est pas comme ça.
C'est-à-dire que au nom,
on va pas revenir sur
au nom de la sécurité, au nom du droit, au nom de la démocratie, elle t'envoie un 49-3. Ça fait aussi mal qu'une arme non létale.
Justement, messieurs, j'ai pas donné la parole à Jimmy Dalidou. Très intéressant ce qui se dit. On va juste marquer la dernière pause et on se retrouve dans une poignée de minutes si vous voulez bien. Et je donne la parole à Jimmy Dalidou qu'on n'a pas entendu ou très peu entendu. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Exactement, la dernière ligne droite, les informés avec Jimmy Dalidou, les informés avec Fauzi Lelouch et enfin, les informés, c'est avec aussi Rafik Temgari, messieurs, Jimmy Dalidou, je devais vous redonner la parole, justement, avant d'enchaîner sur le sujet du Covid, grippe, gastro,
Trois choses. On a parlé qu'effectivement d'engagement dans la politique. Là, je suis plutôt d'accord. Mais je pense que ça doit se faire sur des bases de conviction. On ne s'engage pas en politique sur des bases opportunistes. C'est malheureux ce qui se passe en général. Et malheureusement, les convictions, il faut les laisser s'exprimer. Et malheureusement, nous vivons dans un système qui malheureusement ne veut pas vraiment que les citoyens s'expriment et laissent s'épanouissent dans leurs convictions. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est que c'est le métro boulot dodo en fait. Hein. Mmh, mmh. C'est que tu fermes un peu ta bouche et que tu ailles travailler et que tu
pas partout,
déranges pas trop.
Non,
donc la deuxième chose, je réaffirme.
Un peu dur quand même. Hein.
Je réaffirme que la démarche du gouvernement est malsaine dans le sens où c'est une démarche individuelle, non pas collective, et qu'il n'y a aucune connexion avec la population. Et cette connexion peut se faire au niveau local, évidemment. Mais ça, moi, Fawzi, tu disais que tu venais de Sevran. Moi, j'ai grandi juste à côté de chez toi, dans la cité des 3000, là où naît ce bois. Et je vais vous dire que les politiciens, les seuls moments où on les voit, c'est pendant les élections. Le reste du temps, il n'y a rien.
C'était avant, peut-être.
Donc,
moi, sincèrement,
cette connexion, la masse,
Mais pas du tout. Attends, excuse-moi,
je t'ai pas interrompu tout à l'heure.
Excuse-moi.
Donc la connexion avec la masse,
c'est juste rebondir.
C'est faux. Parce que moi, je dis que vis-à-vis des élus, ils sont très présents sur le terrain. Je prends l'exemple de Royer-Malmaison.
Tu me parles de quel élu?
Je les reçois ici, les élus du 93. Ils viennent,
en place des actions.
J'en ai plein, ils sont
là,
je peux les nommer. Hein.
Dans le quartier, ils viennent pas.
Ou ça s'appelle les élus à votre écoute.
Ça, je ne dirais pas ça.
Moi, je te le dis. Non, mais connexion avec la masse, c'est la troisième chose.
À Royer-Malmaison, ce qu'on a mis en place.
Attendez.
Je donne juste l'exemple de ma ville parce que je connais. J'ai mis en place l'action de dire les élus à votre écoute et ils doivent être présents sur les marchés de la ville chaque premier week-end du mois. Et c'est à vérifier et voir sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'on est dans l'obligation de prendre l'ensemble des doléances des citoyens et leur répondre. On a mis en place des applications où l'ensemble des administrés.
On va pas laisser te répondre, donc vas-y, mais on va pas laisser te répondre.
On va pas laisser te répondre. Dire que les élus sont là que pour les fêtes, c'est faux.
Ouais.
Peut-être ça s'est passé
donc,
ça
donc,
avant.
La première chose,
c'est réduire évidemment le rôle de l'élu à simplement.
Même s'il y a une initiative individuelle, cette initiative individuelle doit se greffer dans une énergie globale, dans une initiative globale, et c'est certainement pas la perspective du gouvernement. Et la troisième chose sur laquelle je voulais revenir, effectivement, il y a eu tout se passe pas dans le Parlement dans ce pays. Moi, ce qui me sidère, ce qui m'agace dans ce pays, c'est que tous les médias sont fixés sur ce qui se passe dans le gouvernement. À la limite, j'aurais voulu dire, on s'en fout en fait. Le principal, c'est ce qui se passe dans les luttes sociales.
Ouais,
et dans les luttes sociales, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate dans les luttes sociales? Et il l'a dit tout à l'heure, Fawzi, c'est qu'à partir du moment où tu mets en exergue des revendications et même d'une manière pacifiste, on te balance des LBD. On te balance des gaz lacrymo.
Bon, on va pas rejouer
des mains. On
va pas.
Ça, c'est une réalité.
Allez, messieurs, nous allons passer. Allez, parce que comme c'est la dernière, justement, dernière ligne droite, je voudrais un mot, parce que demain, c'est l'élection, vous savez, on le saura. Jordan Bardella ou Louis Alliot vont désormais endosser, vous savez quoi? Eh bien, tout simplement, l'habit du tout nouveau président du Rassemblement National. Alors, un petit mot, je fais un tour de table.
Ouais, mais j'aurais juste aimé juste répondre. Par rapport à Roy Malmaison.
Oui.
S'il a pris cette initiative de dire j'ai mis en place, parce que je l'ai entendu,
j'ai mis en place.
Très court. C'est très bien. Parce que ça prouve que ça n'existait pas avant. Oui. Et c'est pas dans toutes les villes comme ça. Et la majorité des villes, les élus sont là juste pour taper aux portes lorsqu'ils ont besoin d'être élus et pour les fêtes de quartier et pour des représentations.
C'est faux.
Et, non, mais c'est pas faux. Moi, je prends mon exemple de ma ville,
oui,
là où j'habite.
C'est
on fera un sujet. Vous savez quoi? On fera un sujet sur cet thème. L'élection du Rassemblement National. Est-ce qu'il y a un enjeu entre les deux personnalités? Est-ce qu'il y a un enjeu attendu demain?
De toute façon, on sait que celle qui va décider. C'est la même chose que pour ce gouvernement qui est en place, c'est Marine Le Pen. Mmh. Elle va donner ses directives, que ça soit l'un ou l'autre, il devra exécuter. Ça changera pas grand-chose. D'ailleurs, elle a dit qu'elle se déchargeait de ne plus vouloir être à la tête de son parti.
Oui.
Bardella, c'est quasi, il est favori quelque part parce que c'est lui le plus visible médiatiquement. Après, ça va changer quoi? Les directives viennent d'une personne et d'une cause commune. C'est le problème d'être partisan dans un parti, c'est de devoir obéir à la tête. Et même si vous n'êtes pas d'accord dans un parti, ben vous devez effacer votre pensée et votre idée pour la décision qui a été décidée dans un parti.
Justement, un tour de table. Rafik Temgari.
Alors moi,
l'enjeu, analyse et regardons ce qui va se passer.
Alors déjà, le Rassemblement National a réussi à changer complètement son image. Je pense que l'image du FN, c'était le parti diabolique et que actuellement avec Marine, elle a réussi à changer.
C'est normal. Tous les autres partis parlent de l'immigration à la place de la violence. au-delà de la délinquance, à la place d'elle.
Alors, elle a fait beaucoup de travail dans son
oui, elle a parlé de social.
Elle a pas parlé que du social. Elle a fait en sorte de ne pas, comment dirais-je, de le rendre un parti
fréquentable, voilà, banaliser, quoi.
Banaliser, etc.
Ah bon, oui,
aujourd'hui,
c'est une stratégie.
Alors, tout à fait.
On est d'accord.
Et sincèrement, moi, en toute honnêteté, je connaissais pas du tout lui à Lyon, où je viens de voir.
C'est le maire de Perpignan, les amis.
Tout à fait. Donc, je connaissais.
C'est le maire de Perpignan.
Je pense que Jérôme Bardella a beaucoup plus de chance, puisque c'est son protégé, c'est son dauphin, même si elle ne le dit pas, comment dirais-je, sur tous les micros. Mais aujourd'hui, le Rassemblement National, il ne faut pas oublier qu'il reste un parti d'extrême droite, qui reste un parti qui a toujours été contre des minorités, et que pour moi, les extrêmes, ce n'est pas bon, il faudrait lutter contre les extrêmes.
Je m'attendais à ce que ça soit le maire de Béziers, moi, qui postule.
Ouais, il n'a pas la carte.
Il n'a pas la carte.
Non, il n'est pas membre du Rassemblement National.
Il y a deux éléments. Premier élément concernant le... Alors, je pense que, oui, effectivement, il va y avoir une modification au niveau des personnages. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que dans une organisation politique, l'instance dirigeante de l'organisation politique, ce n'est pas un personnage. C'est toujours le Congrès. C'est le congrès du parti qui donne l'instance, qui donne la direction.
Quand on est président, quand même, on l'incarne.
Et je parle du parti politique, d'une organisation politique. Une organisation politique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le congrès. Et les délégués qui affirment une ligne politique. Donc que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, ce serait une ligne politique.
Identique.
La ligne politique de ce que j'appelle du néo-fascisme. Ensuite, ça m'emmène vers le deuxième élément, qui est que le Rassemblement National, évidemment, tu disais qu'il a... je pense pas que ce soit une... Ouais, il s'est donné une image, mais ça reste une formation. Alors, faut pas oublier les principaux points de différenciation entre le social-fascisme et le fascisme. Le social-fascisme prend toujours un aspect républicain. Pourquoi ? Parce qu'il permet de préparer les esprits. Il permet de conscientiser les esprits, d'affirmer une orientation idéologique. Donc, le Rassemblement National, ça reste une formation de type néo-nazi. Et qui est social, fasciste, et qui prépare
aussi,
les esprits à si vous voulez, malheureusement, en adoptant cette utopie qui consiste à croire que le Rassemblement National serait un parti républicain et acceptable, eh bien, malheureusement, indirectement, on adhère à une idéologie malfaisante, malsaine, et qui s'est d'ores et déjà matérialisée avec Fratelli d'Italia en Italie. D'accord. Je vous rappellerai que le Rassemblement National.
Sauf qu'aujourd'hui, le Rassemblement National existe. Ils ont des élus au sein de l'hémicycle. Ils sont présents. C'est ça. Voilà. Exactement.
C'est pour ça qu'il faut développer l'élu social et que la classe ouvrière et les couches populaires, donc la majorité des Français.
Non, mais on peut pas se mettre des œillères en disant, ouais, le Rassemblement National n'existe pas. C'est bien beau après avoir entendu ces discours. Mais ils pèsent désormais dans l'échiquier, évidemment, politique. Ils pèsent au sein de l'Assemblée. La preuve, regardez, ils font main dans la main, ou je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, il y a des motions de censure qui sont déposées avec la NUPES et les filles. Bon, voilà. Donc ils ont un poids. Absolument.
Je me demande bien la réaction de ce parti et de Marine Le Pen concernant les décisions sur la régularisation des travailleurs dans les métiers sous tension. J'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner vis-à-vis d'eux, parce que c'est leur cheval de bataille de l'époque. Comme je dis, depuis longtemps, ils ne parlent plus d'immigration, ils n'ont pas besoin. Tous les autres partis le font pour récupérer leur voix. Voilà. Et donc aujourd'hui,
le ministre de l'Intérieur, il le fait, de lui-même.
On revient directement dans le sujet qui les préoccupe au quotidien et ceux qui les a définis tels qu'ils sont réellement. C'est-à-dire que moi, j'estime que là, aujourd'hui, avec le discours social qu'ils ont depuis longtemps, ils trompent l'opinion publique par les vraies intentions qu'ils ont derrière cachées, en montrant que la belle vitrine. Mais derrière... Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est comme une belle vitrine. Tu vois, il y a des choses qui t'intéressent. Une facture dans le magasin. Ah ben, il n'y a pas ma taille. Ah ben, c'est pas ce que je croyais. Oh ben, il est mal coupé. Oh ben, tu vois, et tu t'aperçois de la réalité.
Non, moi, je pense que c'est le...
Trafic,
le...
et ensuite, et je voudrais qu'on parle du Covid, c'est important. Juste.
Mais vraiment, COVID, rapidement, la lutte réelle, ça reste la lutte contre le racisme. Et je pense que là, d'ailleurs, Beurre FM, je pense qu'il est né aussi suite à ce genre de lutte. Et ça, il faudrait vraiment ne pas l'oublier. C'est que nous luttons contre le racisme, nous luttons contre l'extrémisme, et l'extrémisme de tous bords, et en l'occurrence...
Jimmy,
je dirais juste tout simplement, effectivement, je suis d'accord avec toi, le racisme est un véritable poison. Et je pense qu'effectivement, concrètement, voilà, c'est pas en restant assis sur le canapé en regardant la télé que les choses vont bouger. Il faut développer les luttes sociales et il faut aller là où ça se passe, en fait, dans les luttes, dans les assemblées générales des travailleurs, dans les débats et les discussions au niveau local et pour développer les luttes. C'est comme ça qu'on vient.
Avant de rendre l'antenne,
avant de s'engager, c'est s'impliquer.
Oui, bah, s'impliquer, s'engager.
S'impliquer, c'est pas s'engager. Oui, non, mais... S'impliquer, c'est montrer que ça me concerne et j'ai mon rôle à jouer et je le joue tous les jours
mais
dans la
vie sociale. Mais l'engagement n'est pas que politique. L'engagement, oui, il est quotidien. C'est pour ça que je dis messieurs, s'impliquer ou s'engager.
Oui.
S'engager,
attends,
c'est pas que de la politique.
S'il vous plaît, oui. juste parce qu'avant de rendre l'antenne, je voudrais quand même qu'on parle à ce que... parce que le masque redeviendrait nécessaire selon la médecine, selon l'Académie nationale de médecine. Vous savez, c'est le retour de la bronchite chez les enfants et des crises justement dans les hôpitaux. Hein. Ils sont saturés, ils sont dépassés. Je parle du service pédiatrie. On parle d'une huitième vague. On parle de la grippe. On parle de... Bref, évidemment, c'est la saison. On est en plein dedans. Est-ce qu'on fait un tour de table? Selon vous, l'Académie nationale de médecine, voilà, le masque peut redevenir, évidemment, nécessaire aujourd'hui. Fawzi Lellouche.
Moi, le sujet, c'est pas le masque. Le sujet, c'est que les bronchites, les grippes, tout ça, elles ont toujours existé. Demain, vous faites un test pour le Covid. Eh ben, vous êtes positif si jamais vous avez la grippe, la bronchite ou autre chose. Donc, pour moi, juste des précautions à prendre, sensibiliser les gens que, à tout moment, dès qu'ils ont une infection, ils risquent de la contracter, ou de la transmettre. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'obliger les gens à mettre des masques. Maintenant, celui qui s'est malade ou qui sent
fragile.
Fragile ou qui risque de contaminer quelqu'un de lui-même, maintenant il a compris, il a dû comprendre. Et je pense qu'on a été assez réprimés,
rapidement.
C'est-à-dire dans nos libertés.
Il me reste
pendant
quelques secondes. Voilà. S'il vous plaît, merci Fawzi, je suis
moi,
désolé.
Moi je pense qu'il faudrait vraiment être assez... penser à autrui. Aujourd'hui, quand on rentre dans un hôpital, on a l'obligation de mettre un masque. Donc je me dis, il faudrait penser aux personnes qui sont immunodéprimées, aux personnes malades, fragiles. Donc le masque, c'est culturel. Il faut juste porter le masque pendant l'hiver et c'est tout.
Ouais, non,
Jimmy Dalidou.
Le problème qui se pose, c'est pas le masque. C'est le problème qui se pose, c'est que tout ce qui est restrictions sanitaires et contrôle de la population sous paravent. De l'aspect sanitaire, c'est ça qui pose problème.
Merci messieurs. Merci à Jimmy Dalidou. Au plaisir.
Mais merci à vous.
Un bon week-end à vous. Merci à Fawzi Lellouche. Au plaisir. Merci à Rafik Temgari.
Bah,
il nous a manqué, Maître David Livesky,
oui,
là.
Ce soir, vendredi.
On le salue. Et je voudrais simplement, avant de rendre l'antenne, dire quand même, on peut lui souhaiter, c'est son anniversaire.
Bon anniversaire,
merci. Joyeux anniversaire, Rafik. Bon anniversaire, mon cher Rafik.
Merci beaucoup.
Heureux anniversaire, vivez-le bien. Et comme on dit, vous savez quoi, vive la vie.
Oui, tout à fait. On ne lâche rien.
Et on ne lâche rien.
Merci beaucoup.
Absolument. Bon anniversaire, cher ami. À la réalisation, c'était Tariq. Je vous souhaite, attendez, Bilal Nedman, 20-21, Vanessa ensuite après. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous.
Très
mais
bon
surtout
week-end.
À lundi, et on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.